Le premier voyage en Amérique de Christophe Colomb, une folle aventure. Livre, pages 182 à 184.
Le premier voyage en Amérique de Christophe Colomb, une folle aventure. À la fin du 15e siècle, une fièvre a saisi l'Europe. La fièvre de la découverte et de l'aventure. Entre autres, on cherchait une nouvelle route vers les Indes par bateau. Beaucoup de marins étaient prêts à tout pour découvrir de nouvelles terres. L'un des plus obstinés s'appelait Christophe Colomb. Pendant près de 2 ans, Christophe Colomb a essayé de présenter au roi d'Europe un projet fou. Rejoindre les Indes en passant par l'océan Atlantique. En effet, Colomb pensait que l'Asie était toute proche, à l'ouest de l'Europe. Il ne connaissait pas l'existence d'un autre continent, l'Amérique. Le 17 avril 1492, la reine d'Espagne, Isabelle la Catholique, a finalement accepté de l'aider. « Enfin, je vais réaliser mon rêve », a-t-il dit. Christophe Colomb avait alors 40 ans et les cheveux blancs. Un homme de 40 ans était considéré comme un vieil homme à l'époque. Le 3 août 1492, Christophe Colomb est parti du port de Palos au sud de l'Espagne avec ses 3 voiliers, la Santa Maria, la Niña et la Pinta. Il y avait en tout 87 marins sur ces 3 bateaux, dont le plus jeune avait 12 ans. Tous bien courageux. Ils savaient qu'ils risquaient la mort, car leur voyage était terriblement dangereux. En effet, les bateaux de Colomb n'étaient pas tellement grands. On se demandait s'ils pourraient affronter les effroyables tempêtes de l'océan Atlantique. Colomb avait quelques instruments de navigation très imprécis et bien sûr pratiquement aucune carte. Le 8 août, les îles Canaries, au large de l'Afrique, étaient en vue. Il s'agissait de la dernière escale avant de prendre l'océan vers l'ouest, vers l'inconnu. On a dû s'arrêter plus longtemps que prévu afin de réparer la Pinta qui prenait l'eau. Son gouvernail était aussi brisé. On pensait qu'il avait été saboté par des marins qui voulaient retourner en Espagne. Christophe Colomb avait beaucoup de mal à rassurer son équipage. Le 6 septembre, cette fois, c'était le grand départ. Le 9 septembre, on ne pouvait plus voir les îles Canaries. Les marins avaient terriblement peur. Ils avaient peur du large, de l'inconnu, du naufrage. Le 16 septembre. Stupeur. Les bateaux de Christophe Colomb sont arrivés dans ce que l'on appelle aujourd'hui la mer des Sargasses. Il y avait des algues flottantes qui couvraient une immense étendue d'eau. L'équipage a eu peur d'y rester pris, mais les bateaux ont réussi à passer sans problème. Le 24 septembre. Après 18 jours en mer et pas de terre en vue, les marins en ont eu assez. La révolte était proche. Ils parlaient même, apparemment, de jeter Christophe Colomb par-dessus bord. Seul Colomb avait une cabine. Les autres hommes dormaient sur le pont au milieu des rats. Heureusement, Colomb, encore une fois, a réussi à les convaincre de continuer en leur promettant des terres et des richesses fabuleuses. Le 7 octobre, on a pensé voir la terre encore une fois. Il s'agissait d'au moins la 3e fausse alerte. Les hommes désespéraient. Christophe Colomb a écrit dans son journal que les hommes n'en pouvaient plus et qu'ils se plaignaient de la longueur du voyage. À grand-peine, il a quand même réussi à les convaincre de naviguer 3 jours de plus. Le 12 octobre, 2 heures du matin, coup de canon de la Pinta. Un marin a crié « Terre !» Cette fois-ci, enfin, c'était vrai. Au matin, Colomb a fait mettre une chaloupe à l'eau et s'est dirigé vers cette terre. Il est arrivé à une belle plage bordée de cocotiers. Il était fou de joie. Il croyait débarquer dans ces fameuses Indes aux richesses merveilleuses. En fait, il venait de débarquer sur une île des Bahamas. Sans le savoir, il était arrivé en Amérique. En débarquant sur l'île, Christophe Colomb a déployé la bannière des rois d'Espagne. En leur nom, il a pris possession de l'île qu'il a nommée San Salvador. Des indigènes sont venus à sa rencontre. Ils trouvaient bizarre la peau blanche et la barbe des marins. Colomb les a nommés « Indiens », car ils pensaient bien sûr être arrivés aux Indes. Le 15 octobre, Christophe Colomb a capturé 7 indigènes pour lui servir de guide afin de se rendre sur une autre grande île que les indigènes appelaient Puba. Au bout de quelques jours, il est arrivé sur cette grande île. Cette fois, il était persuadé d'être arrivé à Cathay, ancien nom de la Chine. Mais là encore, il n'a trouvé ni ville, ni épices, et bien peu d'or. Le 5 décembre, les bateaux sont arrivés à une île splendide que Christophe Colomb a baptisée Hispaniola. Aujourd'hui, cette île est divisée en deux pays, Haïti et la République dominicaine. Les indigènes se reposaient dans d'étranges filets qu'ils nommaient hamacs. Colomb a écrit dans son journal qu'ils tenaient à la main un curieux tison d'herbe dont ils aspiraient la fumée. Ils appelaient cela du tabac. Le 25 décembre, catastrophe! Un jeune marin qui tenait la barre de la Santa Maria l'a laissé s'échouer. C'était une perte totale. Le 16 janvier, Christophe Colomb a laissé 39 marins volontaires à Hispaniola. Il a quitté les îles avec ses deux plus petits bateaux, la Niña et la Pinta. En se dirigeant vers l'Espagne, il a échappé par miracle à une effroyable tempête. Le 15 mars, les deux bateaux sont enfin arrivés au port de Palos, d'où l'expédition était partie 8 mois plus tôt. Le 31 mars, Colomb a défilé à cheval dans les rues de Séville. Très vite, l'incroyable nouvelle s'est répandue en Europe. Christophe Colomb avait tracé une nouvelle route vers les Indes. Il a fallu une dizaine d'années avant que l'on s'aperçoive de l'erreur. La gloire dont on a couvert Colomb après son premier voyage a été de courte durée. En effet, on l'a accusé, entre autres, d'avoir maltraité les Indiens. Il est mort dans la misère après avoir perdu la confiance de tous.